France Inter. .fr. La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, les promesses de l'énergie bleue.
Depuis la découverte du feu, l'humain ne connaît que la combustion. Il n'a jamais su créer d'énergie sans brûler tout ce qu'il avait sous la main. Au XXe siècle, l'hydroélectrique, l'éolien ou le photovoltaïque ont ouvert la voie à de nouvelles sources d'énergie. Mais il en est une, toute nouvelle, capable de révolutionner nos concepts et mettre fin définitivement à l'ère de la combustion. De quelle source d'énergie révolutionnaire s'agit-il ? Du sel.
Voilà, extrait du documentaire Du sel dans mon moteur de Jérôme Cécile Auffray, diffusé sur France 5. Et pour faire de l'énergie avec du sel, du moins avec la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce, eh bien des chercheurs du CNRS, de la Sorbonne Université et de l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier, ont cherché à évaluer l'efficacité d'un condensateur. Leurs travaux sont publiés dans la revue Physical Review et on en parle, Agnès, avec notre invité.
Benjamin Rottenberg, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire Phoenix à Paris. Autour de la table, Hervé Kempf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du quotidien de l'écologie Reporter, notre partenaire comme chaque lundi. Avant de parler de votre étude, Benjamin Rottenberg, vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'énergie bleue ?
L'énergie bleue ou l'énergie osmotique, c'est l'énergie qu'on pourrait récupérer quand on mélange de l'eau salée, par exemple de l'eau de mer, avec de l'eau douce, par exemple de l'eau de rivière. Ce mélange, il a lieu tous les jours, en permanence, dans les estuaires, vous l'avez dit. Et associé à ce mélange, il y a une quantité d'énergie qui est libérée, que pour l'instant on ne récupère pas du tout, mais qu'on pourrait éventuellement récupérer.
Mais l'énergie, c'est le choc de la chimie entre l'eau salée et l'eau douce, justement ?
Alors, peut-être que c'est pas évident de comprendre d'où vient cette énergie. Pour le mieux comprendre, je vous invite à penser au processus inverse, qui est celui du dessalement. Si je vous donne de l'eau saumâtre, qui contient du sel, mais pas autant que dans l'eau de mer, comment est-ce que vous pourriez faire pour séparer cette eau saumâtre en de l'eau salée d'une part et de l'eau douce d'autre part? Vous pourriez mettre ça dans une casserole et puis dépenser de l'énergie, beaucoup d'énergie si vous faites ça en chauffant par une casserole, pour faire évaporer une partie de l'eau. Et puis cette eau qui va être évaporée, vous pourrez ensuite la condenser sous forme d'eau douce et vous aurez récupéré au fond de votre casserole de l'eau qui est plus salée. Si vous avez dû dépenser de l'énergie pour faire ça, c'est réciproquement l'énergie que vous pourriez en principe récupérer lorsque vous faites le mélange qui se fait spontanément.
Ça veut dire que c'est deux phénomènes qu'on peut conjuguer en fait, le dessalement de l'eau de mer et puis la production d'électricité à partir de ce choc entre eau salée et eau douce.
Tout à fait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais ce sont les mêmes outils qu'on peut utiliser soit dans un sens pour récupérer l'énergie bleue à partir de ces eaux salées et douces, ou à l'inverse, dépenser de l'énergie et produire de l'eau douce et de l'eau salée à partir de l'eau saumâtre.
Mmh. Alors jusqu'à présent, pour capturer cette charge électrique, on utilisait une membrane avec un minuscule trou, on va dire, pour séparer l'eau douce de l'eau salée. Là, vous, vous êtes intéressé à une nouvelle technologie, enfin une autre technologie. Pourquoi ?
L'idée de récupérer l'énergie bleue, elle est assez ancienne. Elle a été proposée dans les années 50. Et il a fallu attendre déjà une vingtaine d'années pour que les premières technologies permettant de récupérer une partie de cette énergie, soit proposée, et elles utilisaient ce qu'on appelle des membranes semi-perméables. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement une membrane qui va laisser passer certaines choses et pas d'autres. Et pour comprendre ce que ça veut dire, vous pouvez penser à votre passoire dans votre cuisine. Vous versez l'eau des pâtes avec les pâtes. Les pâtes vont rester coincées au fond de la passoire, et puis l'eau va passer à travers les trous. Et si ça se passe bien dans le cas de la passoire, c'est parce que les pattes sont très grosses, vont être retenues par des trous qui sont suffisamment gros pour laisser passer l'eau. Mmh. Par contre, si vous essayez de faire la même chose pour séparer le sel et l'eau de l'eau salée, vous allez avoir besoin de faire des trous qui sont très petits. Mmh. Et parce que vous avez des très petits trous, eh bien, il n'y a rien qui va passer facilement. Vous pourrez quand même faire passer l'eau sans le sel ou l'inverse.
De la taille du nanomètre à peu près.
Voilà. Pour pouvoir discriminer entre les deux, il va falloir des trous de très petite taille, et ça va empêcher le fluide de s'écouler, et vous allez perdre beaucoup de l'énergie que vous étiez censé récupérer. Donc il y a des procédés qui ont été proposés, et même une usine pilote qui avait été montée en Norvège, Et apparemment, les promesses ne sont pas tout à fait tenues en termes d'efficacité énergétique. Et donc, il a fallu se tourner vers d'autres procédés pour éventuellement récupérer cette énergie bleue.
Hervé Kempf pour Reporter.net.
Et donc là, ça serait la nouvelle technique, et c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui ici, c'est les supercondensateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer aussi simplement qu'avec l'exemple des pâtes
C'est ça. Parlez-nous pâtes et passoires, là, on comprend.
Alors, je vais... Peut-être d'abord, dans un premier temps, vous parlez globalement de deux procédés qui sont les
plus... Mais court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Ouais. Un premier procédé qui repose toujours sur les membranes, qui laisse passer à la fois le sel et l'eau, mais de façon différenciée, et ça peut suffire pour extraire une partie de l'énergie bleue. C'est notamment des chercheurs du CNRS qui ont déposé un brevet qui est exploité par une start-up française. Et le procédé auquel on s'est intéressé, effectivement, il fait intervenir ce qu'on appelle des supercondensateurs, qui sont des dispositifs qui permettent de stocker l'électricité. Le stockage de l'électricité, vous connaissez tous. Vous avez dans votre smartphone ou dans votre batterie de voiture, si vous avez une voiture électrique, vous avez une batterie. Avec cette batterie, vous faites deux choses. Vous pouvez soit dépenser l'électricité que vous avez stockée dans votre batterie, et ça c'est en général ce qu'on aime bien, et puis quand votre batterie est vide, vous devez la recharger en la branchant sur le secteur. Les supercondensateurs, c'est un peu pareil, vous pouvez les charger, les décharger, et par rapport à des batteries, ça va stocker moins d'énergie, mais vous allez pouvoir stocker et restituer l'énergie beaucoup plus vite. Si vous voulez une analogie avec les coureurs à pied, la batterie, ça va être le marathonien, alors que le supercondensateur, ça va être le sprinter.
Allez, dernière question, Agnès.
Et est-ce qu'on a une idée de quand on pourrait voir peut-être un jour une centrale proche d'un estuaire en France? Et puis est-ce qu'il y en a certains en particulier qui dégagent déjà un fort potentiel dans notre pays?
Alors, dans notre pays, je ne sais pas quel serait l'estuaire le plus favorable. Mm-hmm. Pour pouvoir aller vers des usines qui produiraient vraiment l'électricité en quantité suffisante, il faudra attendre encore quelques années de recherche et développement. On a quelques atouts en France, à la fois au niveau académique et industriel, pour parvenir à cet objectif. Mmh. On peut avoir quand même en tête, au niveau mondial, que le potentiel de cette énergie bleue est extraordinaire. On estime à peu près, dans la littérature, qu'on pourrait produire, grâce à tous les estuaires du monde, environ 2 TWh, ce qui représente à peu près 2/3 de la production électrique mondiale.
Ah oui, quand même.
6 fois la totalité de la puissance produite par les centrales nucléaires dans le monde.
Ouais.
Donc le potentiel est gigantesque. Mmh. Évidemment, on ne va pas tout récupérer. Mais même si on récupérait une toute petite partie de toute cette quantité potentiellement disponible, ça pourrait éventuellement être une composante intéressante d'un mix énergétique dans le monde et en France en particulier.
Mmh. Très intéressant, très prometteur en tous les cas. Il y a beaucoup de travaux à faire encore, mais pour les applications. Mais en tout cas, effectivement, c'est une piste à emprunter. Merci beaucoup à vous pour ces informations et donc à l'occasion de la publication de vos travaux cette semaine. Merci Agnès. À demain. Et puis Hervé Kempf, on jette un œil quand même sur reporter.net pour le sommaire.
Tout à fait. Oui, nous allons à Bornéo, une île entourée d'eau. Sans doute y a-t-il beaucoup d'estuaires, mais là on était sur l'île et s'intéressait au centre de réadaptation des orang-outans qui sont chassés par la déforestation. Le reportage, et là c'est l'enquête, montre que ces fermes, même ces centres, même s'ils sont très émouvants, on est très content de voir ces petits orang-outans qui réapprennent la vie sauvage, en fait ont peut-être un effet contre-productif parce que d'une certaine manière ils servent d'alibi à la poursuite de la déforestation dans l'île de Bornéo.
Et donc, c'est sur reporter.net. Merci beaucoup, Hervé et Agnès. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, rajeunir en jeûnant, c'est à peu près peu de choses, en tout cas, ce que suggère une étude de biologistes du prestigieux MIT. Plus précisément, les chercheurs ont observé chez des souris qu'un jeûne de 24 heures, permettait de stimuler la régénération des cellules souches de l'entretien. C'est plus rapide, heureusement. Ces cellules souches sont essentielles pour fabriquer les nouvelles cellules intestinales et réparer les dommages. Mais plus on vieillit, plus leur capacité de régénération réduit. En prévenant de nourriture des souris jeunes et âgées durant 24 heures, les chercheurs ont observé des effets métabolique dans l'utilisation des glucides ou la combustion des graisses, mais surtout ils ont constaté que les cellules souches des souris à jeun doublaient leur capacité de régénération. Selon les scientifiques, cette découverte pourrait aider les personnes âgées à se remettre d'infections gastro-intestinales ou encore des patients traités par chimiothérapie. Elle intrigue décidément les chercheurs, la petite grenouille Rana sylvatica. On vient juste d'apprendre par quel mécanisme elle recyclait son urée dans les intestins au sortir de l'hiver. Et si la question taraudait les scientifiques, c'est parce que ce batracien à sang-froid qu'on trouve au nord de l'Amérique a le super pouvoir de résister au gel. Comment ? Eh bien, en cessant d'uriner pour stocker l'urée dans l'organisme. Cet antigel naturel permet de réduire le seuil de congélation des fluides du corps de ces grenouilles et protège leurs cellules. Elles sont donc parées pour affronter le froid glacial de l'Alaska. Et puis les historiens le décrivent comme le Kurde le plus célèbre de tous les temps. Le sultan Saladin est une figure célèbre au Moyen-Orient. Au XIIe siècle, il a régné sur un des plus importants empires de la région, allant de l'Afrique du Nord à l'Irak. Il a même repris Jérusalem aux croisés chrétiens. Mais sa mort à l'âge de 56 ans, des suites d'une maladie, est toujours restée mystérieuse. Un professeur de médecine de l'université de Pennsylvanie a mené l'enquête et atteste 800 ans après son décès qu'il s'agissait de la fièvre typhoïde. Cette infection transmise par l'eau et la nourriture contaminée touche encore aujourd'hui 17 millions de personnes dans le monde, selon l'OMS.